Ce soir, on est rendu à la quatrième réunion, la quatrième leçon. C'est sûr qu'on va commencer à partir du chapitre numéro 5, la partie numéro 5. On a vu que Jésus a donné une grande commission à son Église, puis c'était une commission que tous ses disciples, tous ceux qui font partie de son Église sont appelés à participer à l'œuvre de moissonner la création. Puis c'est plus qu'une option dans la vie d'un disciple, c'est un ordre que Jésus a donné. Puis on a vu aussi qu'il fallait atteindre chaque individu qui nous entoure, peu importe que ce soit un ami ou un ennemi. Le Seigneur s'attend à ce qu'on puisse aller rejoindre tous les gens qui nous entourent. Puis on a vu aussi que notre champ d'action, c'était le monde en entier. Aussi loin qu'il peut y avoir des individus qui sont en vie, le Seigneur veut qu'on atteigne chaque personne. Puis un peu plus tard, dans la suite des cours, on va voir que Jésus, savez-vous qu'il y a quelque chose qui retarde le retour de Jésus-Christ? Il dit, il faut que la bonne nouvelle du royaume soit prêchée parmi toutes les nations. Fait qu'on a de l'ouvrage à faire encore. Alors viendra la fin. Mais d'ici à ce temps-là, on a encore de l'ouvrage. Puis comme on a dit aussi qu'il y avait une grande pénurie pour ce ministère-là. Il manque d'ouvriers pour travailler dans son œuvre, pour travailler à la moisson. Puis le Seigneur, il a ouvert en arrière un offre d'emploi. S'il y en a qui sont intéressés à postuler... Très bon salaire, puis un fonds de pension que tu peux pas retrouver nulle part ailleurs. Gloire au Seigneur. On va commencer à lire à partir de la partie numéro 5. Quelles sont les personnes demandées à travailler à sa commission? On va lire dans Matthieu, au chapitre 25, à partir du verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, puis les fit valoir, puis il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu 2 talents, il en gagna 2 autres. Celui qui avait reçu qu'un talent alla faire un creux dans la terre, puis cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint, puis leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents, il s'approcha puis apporta 5 autres talents. Puis il lui dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, rentre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et lui dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu qu'un talent, il s'approcha ensuite et lui dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne ou que tu n'as pas semé, et qui amasse ou que tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je t'allai cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur, méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne ou ce que je n'ai pas semé, que j'amasse ce que j'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, puis à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi, et avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, puis donnez-le à celui qui en a 10 talents. Car on donnera à celui qui l'a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Puis le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où ce qu'il y aura des pleurs, des grincements de dents. » On a vu dans les passages antérieurs, peut-être vous allez dire, oui, mais ça fait plusieurs fois qu'on voit que tous les disciples sont concernés à travailler dans son œuvre. Je pense qu'il est important qu'on puisse se responsabiliser en tant que disciple afin de prendre notre place dans le corps de Christ, qu'on puisse prendre notre place dans son œuvre. On n'en parle pas assez. On pourrait parler de ça jusqu'à temps que Jésus revienne, du besoin d'aller travailler, puis de s'impliquer, puis de fonctionner dans son œuvre. Souvent, pour toutes sortes de raisons, comme on a vu, souvent on ne sait pas quoi faire, ou on ne sait pas comment le faire, ou peut-être ça ne nous tente pas de le faire, mais on a besoin quelque part de se faire motiver, de se faire encourager à s'impliquer dans son œuvre, parce que si on regarde la longueur de notre vie, ça c'est notre naissance, ça c'est notre mort, ça c'est la longueur de notre vie. Après ça, on tombe dans l'éternité, ça n'a plus jamais de fin. Puis là, on est ici à quelque part. On est peut-être rendu à la fin de notre vie. On est peut-être à moitié. Ça, c'est le reste du temps qu'il nous reste à vivre. Il ne reste plus grand temps. Comme j'ai dit, aussi, on est en train de préparer notre fonds de pension éternelle. Il est important qu'on pense à se ramasser des fruits pour la vie éternelle. On est en train de travailler pour ramasser notre fonds de pension. Puis si on reste assis, je vous dis, il y en a qui n'auront pas un gros salaire rendu l'autre bord. Il est important qu'on se motive, qu'on s'encourage, qu'on parle de versets que Jésus a emmenés pour motiver son Église, qu'on parle des versets que lui a dit pour motiver ceux qui étaient là autour de lui. Ça nous est resté par écrit, ces versets-là. Le titre, c'est « Quelles sont les personnes qui sont demandées de travailler à sa commission? » On a vu que ses serviteurs, c'est ceux qui ont été rachetés par Dieu, ce sont eux qui doivent travailler à sa vigne. Puis dans ce monde, ses serviteurs, ce sont ceux qui font partie de son Église. Parce que quand on voit ce passage-là, il appela ses serviteurs, puis il lui remit des tâches, avec des capacités, avec des talents, des dons spéciaux pour accomplir des choses, puis devait rapporter arriver à la fin de vie, qu'il y ait plus dans leur vie de ce qu'il avait reçu. Nous sommes tous recrutés à travailler à son œuvre. Chacun de nous, nous sommes ceux qui ont été sauvés. C'est nous autres, les serviteurs. Quand on parle dans ce texte-là, c'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. C'est sûr que là, c'est comme dit en trois personnes, mais il y a plus de monde que ça, puis il y a plus de talents qui ont été distribués. Il y en a qui n'ont eu quatre, il y en a qui n'ont trois, il y en a qui n'ont eu deux, il y en a qui n'ont eu un qu'un, puis il y en a qui en ont eu six. Mais ça, c'est un exemple. À quelque part, là-dedans, on peut se retrouver. Les talents sont déjà distribués à chacun d'entre nous. Dans ce texte-là, les points les plus centrales, les points les plus précis qu'on va peser ce soir, les points très importants, c'est que dans ce texte, Jésus parle du jugement de ses serviteurs. Il est en train de faire une analyse de chacun de ses employés. Pareil comme quand moi, mon boss, a tué une fois par mois, il appelle chacun de ses employés, puis il fait passer au bureau, puis il fait le point avec nous autres, les choses qui marchent bien, les choses qui marchent pas bien, puis des choses à corriger, puis des attentes que lui a, puis il nous fait passer comme de temps en temps pour superviser où ce qu'on en est rendu. Un bon patron devrait faire une analyse de ses employés régulièrement. Mais ici, on parle que Jésus est en train d'en faire une de ses employés qui sont chacun de ses serviteurs dans son Église. Ici, on voit qu'il y a trois employés dans l'exemple, les trois ont passé au bureau. Pas juste les meilleurs. Les meilleurs ont passé, ceux qui étaient en milieu ont passé aussi, puis ceux qui n'ont pas grand-chose ont passé aussi. Il ne faut jamais oublier que nous devons tous comparaître devant le tribunal de Dieu pour recevoir selon le bien ou le mal qu'on aura fait dans son corps. Quand on a accepté Jésus, on est rentré dans son corps, on fait partie de son corps. Puis tout ce que tu es en train de faire présentement, le Seigneur voit tout, puis on a des comptes à rendre à la fin. Quand nous en ayons un, deux ou cinq talents, nous ne devons pas les enterrer, mais plutôt les mettre en action pour le service. Chaque talent est distribué et communiqué par le Saint-Esprit. Si nous sommes sauvés, nous avons reçu le Saint-Esprit, puis nous avons au moins un talent qu'il veut que l'on investisse. Puis le plus surprenant, que si nous mettons nos talents à son service, il les multipliera. C'est vrai, toute notre capacité spirituelle de vivre la vie chrétienne ou de faire des œuvres, le royaume de Dieu, ça vient du Saint-Esprit qu'on a reçu à notre conversion. Puis tous ceux qui font partie de son corps ont reçu le Saint-Esprit. Ils sont nés de nouveau, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils sont devenus, étampés par le Seigneur, serviteurs. On est ses serviteurs. On est ceux à qui ce que la job était demandée. Puis on va avoir tous à comparaître devant son analyse à lui, comment est-ce que lui voit les choses. C'est de là qu'il est important qu'on puisse saisir la vision de Dieu pour notre Église, saisir la vision de Dieu pour chacun de nous. Moi, je dois saisir, c'est quoi la vision de Dieu pour moi? C'est quoi le plan de Jésus pour moi? Puis je dois le mettre en pratique dans ma vie afin que ma vie, elle aboutisse à faire sa volonté. Puis je vais avoir des comptes à rendre à la fin. J'ai reçu des talents. Quand je me suis converti à l'Évangile, je n'avais pas les talents que j'ai là. Plusieurs talents se sont multipliés. On voit que les serviteurs avaient reçu les talents selon leurs capacités. Celui qui avait reçu 5 était capable d'en faire valoir 5. Celui qui avait eu 3 était capable d'en faire valoir 3. Puis celui qui avait eu 1, il était capable de le faire valoir son talent. Puis le Seigneur s'attendait à que chacun d'eux autres produise. Les attentes de Jésus sont les mêmes pour chacun de ses disciples. C'est quoi ses attentes? C'est qu'on s'investisse à 100% pour son œuvre. Que tu aies 5 talents, il veut que tu t'investisses à 100% avec tes 5 talents. Si tu en as reçu 2, il veut que tu t'investisses à 100% avec tes 2. Puis même si tu en as reçu rien qu'un, il veut que tu t'investisses à 100% avec le talent que tu as reçu. C'est les mêmes attentes pour chacun. Verset 19, il dit que celui qui en avait reçu 1, 2 ou 5, tous ont fini par rendre compte. Puis c'est sûr que ça ne sera pas demandé le même résultat ou un résultat égal à chacun. Il va nous être demandé selon le talent ou les talents qu'on aura reçus. Jésus a des attentes de recevoir des fruits de chacun de nous ici en ce lieu. Qu'est-ce qu'on est en train de faire dans notre vie? Jésus a des attentes à ce qu'on produise du fruit avec ce qu'on a reçu. Y a-t-il un amen à cela? Savez-vous que Jésus n'aime pas la stérilité? Jean 15, le verset 1 à 5, il dit « Je suis le cep et mon père est le vigneron. » Et du tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut porter de lui-même du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les serments, puis celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Ça, c'est dans Jean 15, les versets de 1 à 5. Chaque personne qui marche en communion avec Jésus sur la terre va porter du fruit. Ça se peut pas qu'une personne ou un serviteur qui a reçu le Saint-Esprit puis qui marche en communion avec Dieu qui produise aucun fruit dans sa vie, ça se peut pas. Mais par exemple, il nous dit qu'il y en a qui ont reçu quelque chose, une révélation, une touche, un cadeau de Dieu, puis qui n'ont rien fait pour Dieu. Ça se peut. Mais la chose qu'il faut s'encourager, par exemple, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que personne sauvée qui fait partie de son corps, on a tous reçu quelque chose de Dieu, puis Dieu veut que tous participent à son œuvre. Puis ses attentes sont les mêmes pour tous. Même si on se dit, oh, ben moi, j'ai pas grand-chose, je vais rester assis, puis je bougerai. Non, parce que celui-là aussi a eu à quoi rendre comme compte à Dieu. Si on engage des spécialistes puis des débutants, mettons qu'on a une tâche à faire chez nous, on a une rénovation à faire dans la maison chez nous, je vais engager des maçons pour réparer la brique. Ça, c'est les personnes spécialisées pour réparer la brique. Puis en même temps, j'ai un petit peu de terre à pelleter, j'engage des gars bien ordinaires qui sont pas sur la construction juste pour pelleter la terre puis sarcler le gazon. Que j'engage un spécialiste ou que j'engage quelqu'un juste pour rateler le terrain, mes attentes sont les mêmes. Je les paye, je veux qu'ils produisent 100% de ce qu'ils sont capables de produire. Je veux qu'ils produisent ce que je leur demande de faire. C'est la même chose avec le Seigneur. Quand on est venu en Jésus, il y a des attentes pour chacun de nous. Il y a des plans déjà tracés pour chacun de nous. Puis il veut qu'on produise ce que lui a préparé d'avance. Puis ça, on va le revoir encore plus loin. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que dans cette demande que lui fait à son Église pour travailler, il veut plus qu'on se dise, « Ah, ben c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. » Savez-vous pourquoi? Parce qu'on l'a vu dans le feuillet cette semaine que quelqu'un d'autre, il est mort. Quelqu'un d'autre, on ne peut plus compter sur quelqu'un d'autre, il est décédé. Et le Seigneur, lui, il veut pas que tu comptes sur quelqu'un d'autre parce qu'il nous a avertis d'avance qu'il était décédé. Ce qui est annoncé ce soir, c'est pour chacun de nous qui est ici. Jésus veut que tu produises des fruits dans ta vie pour le service, de servir dans son royaume. Là, on ne parle pas de quelle tâche à faire, mais on dit « engage-toi ». C'est ça qui est important. Ceux qui ne savent pas de quoi je parle en parlant du quelqu'un d'autre qui est décédé, c'est que dans le feuillet du mois, il y a une petite histoire, puis ça parle de quelqu'un d'autre qui est décédé, fait que là, tu peux plus te fier sur lui pour faire les tâches dans l'Église. Si vous voulez lire l'histoire, vous pouvez la lire dans le feuillet du mois. En tant que racheté, Jésus s'attend que nous mettions tous nos efforts pour participer aux activités de l'Église locale. Que ce soit au niveau de l'évangélisation ou de la formation de disciples. Nous pouvons nous demander, quel est mon rôle dans l'Église? Quel est mon don ou mes dons? Que ce soit des dons naturels ou des dons spirituels, Dieu veut que tu mettes tes dons à son service. Parce que dans l'Église, ça prend pas un don spirituel pour passer l'aspirateur. Ça prend un don naturel de quelqu'un qui a au moins la force de la prendre et de la pluguer, puis de tosser ses affaires, puis de la passer. Puis je pense, n'importe qui est capable de faire ça. Mais ça prend quelqu'un qui le fait. C'est ça qui est le pire, c'est que ça prend quelqu'un qui le fait. Puis le Seigneur a des attentes pour chacun de nous qu'on fasse quelque chose. C'est sûr, vous pouvez aller donner votre nom pour vous inscrire à passer l'aspirateur, puis s'il y a plus de monde, bien, il y aura une rotation. Tout le monde va pouvoir participer à son œuvre, mais c'est pas la seule tâche à faire. Quel est mon don? Quel est mon rôle dans l'Église? Êtes-vous déjà questionné là-dessus? Peut-être que le Seigneur vous appelle à être prédicateur, mais peut-être que vous n'êtes pas encore rendu là, mais si vous attendez après que ça s'accomplisse dans votre vie, si vous attendez juste après ça pour faire quelque chose, vous ne ferez pas grand-chose, vous êtes mieux de commencer de suite en commençant quelque chose que vous êtes capable de faire selon votre capacité que vous avez déjà. Le Seigneur a mis des dons selon leur capacité. C'est quoi ta capacité aujourd'hui? Je vais te dire, c'est quoi ton don? Si vous avez de la misère à vous orienter, vous dites, moi, je ne sais pas c'est quoi. Allez voir Daniel, il va vous aider, il va vous évaluer, puis vous allez pouvoir fonctionner dans un trou à quelque part dans son œuvre. Il y a de l'ouvrage à faire. Il y en a plein de trous. Jésus, il veut que nous les découvrions, nos dons, notre et nos dons. Qu'on ait un, qu'on ait plusieurs, il veut qu'on les découvre. Et si nous ne voyons pas de caractéristiques particulières, mettons, là, si on dit, moi, je ne vois pas que je suis bon ou spécialiste dans quelque chose. Peut-être. Mais on peut seconder ceux à qui que le Seigneur a confié des responsabilités dans l'Église. On n'est peut-être pas tous des leaders, ça se peut. Mais à quelque part, il y a des gens qui ont des visions dans l'Église, qui sont déjà en train de travailler, puis qui ont besoin de personnes pour les assister. Là, on parle comme au niveau de l'évangélisation. Il y a de l'ouvrage à faire. Peut-être vous n'êtes pas tous des leaders. Ça, on n'a peut-être pas tous les mêmes talents. Mais le Seigneur s'attend à ce qu'on s'investisse. On investit de notre temps et de notre énergie pour seconder ceux qui sont en train de... qui marchent déjà avec une vision et qui ont déjà des tâches à faire. C'est aussi bon. Celui qui sème ou celui qui arrose, il récolte tous les deux quelque chose, puis les deux vont être récompensés selon leur travail. C'est pas grave si tu as semé ou tu as arrosé. C'est pas grave. L'important, c'est qu'à quelque part, il y a une récolte puis que tout le monde soit béni au bout de la ligne. C'est la même chose pour son œuvre en général. Il y a plein de tâches à faire. C'est pas grave si tu as eu le premier poste ou le dernier poste. Mais du moins, au moins, sois dans les postes. Tu vas avoir la récompense. Ça nous dit, tu fais rien que donner un verre d'eau à un prophète. Tu vas avoir une récompense de prophète. T'encourager le prophète à fonctionner et à faire son service, tu étais là pour le seconder, pour le bénir, puis lui donner tout ce qu'il avait besoin, tu vas avoir la récompense du prophète parce que tu travailles avec le prophète. Celui qui travaille à un juste, il va avoir des récompenses de juste. Si vous faites le point ce soir, vous n'êtes peut-être pas tous des Billy Graham. Moi non plus, je ne suis pas Billy Graham. Mais ce qu'on est, c'est qu'on va se réunir ensemble, on va commencer à travailler pour l'œuvre du Seigneur. Est-ce qu'il y en a que ça les intéresse? Il ne veut pas que nous restions oisifs, mais plutôt que nous investissions le peu que nous avons, et lui multipliera nos capacités et nos dons. Si nous sommes fidèles dans les petites choses, il nous en confiera de plus grandes. C'est pas juste dans la vie chrétienne que c'est comme ça. C'est la même chose à votre job. Quelqu'un qui va travailler dans un job à quelque part, tu commences au bas de l'échelle. Tu commences à produire ce qu'ils t'ont attitré. Là, ils voient tes capacités, ils te donnent des petits trainings. Là, ta capacité augmente, puis ils te confient d'autres responsabilités, puis ton salaire augmente, puis plus que ça va, plus que tu montes en compagnie. Ça peut arriver aussi que tu restes au même niveau toute ta vie. C'est pas grave. Le résultat de ça, c'est que tu as une paye à tous les semaines, ça te permet de vivre. Mais dans le Seigneur, c'est la même affaire. On accepte Jésus, on ne sait pas faire grand-chose, mais un petit peu qu'on peut faire, quelqu'un qui rentre, puis il y a 3-4 boîtes dans les mêmes. On y va, puis on lui donne un coup de main à rentrer. Un autre, il est en train de faire le ménage. On peut y aider à faire le ménage. C'est pas grave, qu'est-ce qu'on fait? C'est d'être en train de travailler, parce que c'est ceux qui travaillent qui vont être récompensés. C'est ceux qui travaillent qui se ramassent un salaire pour la vie éternelle. La Bible, elle nous le dit-tu, de travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Ça nous dit aussi, ramassez-vous pas des trésors sur la terre, ce que la teigne et la rouille détruisent, mais ramassez-vous dans les trésors, dans les cieux, ce qui n'a pas de valeur ni de rouille. Si notre cœur est dans les choses du royaume, on va s'investir tout notre temps libre pour les œuvres du royaume. Puis là, on va se ramasser un fonds de pension éternel. Je dis notre temps libre par rapport que si on travaille toute la journée, c'est normal d'aller travailler. Il faut travailler, puis ça fait partie du plan de Dieu qu'on travaille. Mais la majorité des œuvres sont toujours en dehors du temps de travail. C'est pas d'hier, c'était de même aussi dans le temps de l'apôtre Paul. Lui-ci a fait des temps, puis il travaillait à ses chiffres, puis il a tout fait semblable, selon tout ce que le monde faisait en ce temps-là, sauf il devait être tout le temps en train de prier quand il était en train de travailler. Il devait être en train de penser à ce qui se passait ailleurs, puis commencer à écrire des lettres. Puis il devait, en sortant, accrocher un gars. « Hey, connais-tu le Seigneur Jésus? » Puis il devait être en train d'accrocher tout le monde en passant. Lui, son but, c'était d'évangéliser, sauver des âmes, ouvrir des églises, puis d'encourager tout ce beau monde-là, puis de prier pour eux autres. Il était en train de travailler à 100%. Il n'a pas attendu longtemps après sa conversion. Suite, quand il s'est converti, il s'est ramassé à Damas, puis il y a eu des révélations du Seigneur, puis il prêcha la parole, puis on n'a pas besoin d'attendre d'avoir un diplôme écrit sur un mur pour commencer à mettre nos dons à son service. On peut déjà s'impliquer. Savez-vous que nous sommes en guerre, puis nous sommes dans un champ de bataille, puis Jésus nous demande d'infiltrer le camp de l'ennemi dans toutes ses sphères, puis d'arracher les âmes captives. Dans Matthieu 10, 16, 18, ça nous dit, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, vous battront de verges dans leurs synagogues, et vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. » Nous avons tous été recrutés lors de notre conversion. Savez-vous ça? Si on pense à une personne qui a été recrutée pour les forces armées canadiennes, elle ne s'appartient plus, cette personne-là. On m'en manque un bout. Une personne qui a été recrutée pour l'armée canadienne, elle ne s'appartient plus. Cette personne-là se leurre à l'œuvre qu'eux autres leur disent, se couche à l'heure qu'eux autres leur disent. Ils ont des fins de semaine off quand qu'eux autres leur disent. Puis s'il y a des, il se passe quelque chose ailleurs, ils sont mobilisés, fini les vacances, fini les affaires, vous en allez là. Quand t'appartiens aux forces armées canadiennes, Puis tu as des tâches à faire. Faut que tu travailles, faut que tu produises pour les forces armées canadiennes. C'est normal quand tu es enrôlé dans l'armée, tu fais ce que tes supérieurs te disent. Ben, on a été recruté par le Seigneur Jésus-Christ et on fait partie de son armée. À quelque part, il faut se le dire. Puis on ne s'appartient plus. Savez-vous ça que vous ne vous appartenez plus? Vous appartenez au Seigneur Jésus parce qu'il vous a racheté. Dans 1 Corinthiens 6, 19, 20, ça dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, que vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été racheté un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps, dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Quand on est venu en Jésus-Christ, on est enrôlé dans l'armée du Seigneur. Puis on s'appartient plus, on appartient à cette armée-là. Puis si on pense à notre responsabilité qu'on a à faire en tant qu'enfant de Dieu, en tant que membre de cette armée-là, on doit la prendre, cette responsabilité-là, puis s'investir comme c'est demandé. On a été choisi puis équipé par Dieu pour faire partie de son équipe d'élite. Puis en même temps, on est citoyen de la patrie d'en haut. 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Pourquoi? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. On fait partie de la gang d'en haut afin qu'on annonce les vertus de celui qui nous a appelé. On était recrutés afin d'annoncer ses vertus. Il nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Il dit, vous, autrefois, vous n'étiez pas un peuple, puis maintenant, vous êtes le peuple de Dieu. Puis au verset 11, ça nous dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Si on est des étrangers et des voyageurs, c'est qu'on n'est pas dans le camp, dans notre camp. On est dans le camp de l'ennemi. On fait partie de son armée, mais on est parachuté dans son camp, dans le camp de l'ennemi. Faut pas se conformer à tout ce qu'on voit, ça fait pas partie du trip de Dieu ce qu'on voit. Ça fait partie du trip de ce monde. Puis nous autres, on est d'en haut, puis on a été acquis, puis on appartient au Seigneur Jésus. Il a payé pour nous qu'on lui appartienne. Maintenant, il s'attend à ses serviteurs, le servent en fonction de garder la vision. J'appartiens en haut. Tout ce qui se passe ici, faut pas que je me conforme à ça, mais j'ai à travailler à annoncer les vertus de celui qui m'a sauvé, de celui qui m'a appelé. Nous sommes parachutés dans le camp de l'ennemi pour arracher les âmes captives des griffes du diable. C'est aussi simple que ça. C'est notre raison d'être encore présent sur cette terre. D'aller travailler à arracher les âmes captives des griffes du diable. Ça devrait être notre seul but, notre seule raison de vivre. Travailler à sauver les âmes perdues qui nous entourent. Travailler à sauver les âmes qui s'en vont éternellement dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. La Bible parle pas du mot enfer, la Bible parle d'un étang ardent. Un lac de feu. Dans la Géhenne, jusqu'à des pleurs, des grincements de dents. Un lieu de tourment, c'est là que les gens s'en vont. Le Seigneur veut pas que ces gens-là s'en aillent là. S'ils s'en vont là, c'est à cause qu'ils persévèrent dans leur résistance contre Dieu, dans leur rébellion. Dieu veut que ces gens-là soient délivrés des griffes du diable, puis qu'ils viennent à la connaissance de la vérité. Dieu l'a dit à Paul dans les Actes, au chapitre 26, le verset 17, il dit, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » L'apôtre Paul l'avait reçu, la vision. Mais le Seigneur lui a dit, « Je t'envoie vers les païens afin que tu les fasses passer des ténèbres à la lumière. » C'était la job de Paul. C'est la job aussi de chacun de nous d'aller dire au monde, sortez des ténèbres puis venez-vous-en à la lumière. Sortez du royaume de Satan, puis nous en royaume de Dieu. Ça fait partie de la tâche principale de la raison d'être de l'Église sur la terre. C'est sûr qu'on doit servir à la louange de, sa grâce, à louer son nom, puis à glorifier son nom. Mais on pourra le faire dans l'éternité aussi, de louer son nom, puis de glorifier son nom. Puis on va le faire aussi. Mais le but principal, pourquoi que son Église est encore ici, c'est pour aller chercher les autres qui ne sont pas encore entrés. On est rendu à partie 6, pour ceux qui sont perdus. Le Seigneur nous donnera ses directives. Éphésiens 2:10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Puis là, dans le titre de ça, c'est « Le Seigneur nous donnera ses directives ». Pensez-vous qu'il est important de connaître les directives du Seigneur? Il dit « On était sauvés pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin qu'on les pratique ». Qu'est-ce qui se passe ce soir, là? Ça fait partie de quelque chose que Dieu avait déjà préparé d'avance. On est dans son plan d'être ici ce soir et de recevoir ses instructions. Mais tout à l'heure, en sortant, il faut que vous sachiez c'est quoi sa tâche aussi qui s'attend quand vous allez sortir, quand vous allez rentrer chez vous, quand vous allez vous lever le matin. Bien, il y a des attentes pour chaque moment de notre vie. On n'est pas seul dans ce combat-là, dans toutes ces œuvres-là. Il a déjà tracé des plans pour chaque église locale, puis des œuvres individuelles pour chacun de ses enfants. Dieu n'est pas pris au dépourvu dans les diverses circonstances de notre vie. Il faut faire confiance au Seigneur. Il a commencé une œuvre en nous autres. Il a commencé à nous parler, à nous transformer, à nous amener à marcher dans ses voies. Puis ça fait X années qu'on marche avec le Seigneur. Il faut continuer à faire confiance qu'on va se rendre à bon terme. Mais d'ici à ce temps-là, il faut y faire confiance à chaque moment de notre vie. Des fois, on peut se faire des projets, on peut se faire des buts, on peut se faire des... Il faut remettre ça entre ses mains afin que ce soit les siens, ses buts et ses projets qui passent dans notre vie. Si je parle de tous ces points-là, il y en a peut-être qui vont me dire, c'est quoi qui est le rapport avec l'évangélisation? Mais c'est dans le but de nous responsabiliser. Il y a des tâches à faire, il y a de l'ouvrage à faire. Jésus a dit lui-même, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Puis il y a de l'ouvrage à faire, pas à peu près. Il y a au moins 45 000 personnes dans Châteauguay, à part dans toutes les villes et les villages environnants. Puis ça prend un...